طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, c'est un livre qu'on présente plus tellement on l'a présenté et on a eu de cesse de le faire. Mais étant donné qu'il y a toujours des gens qui se rajoutent, des gens nouveaux avec nous, on rappelle que ce livre qu'on donne depuis plus de 2 ans, c'est un livre qui traite le livre Péché et guérison, qui traite essentiellement des moyens qui permettent à chaque individu parmi nous, ou qui peuvent permettre à chaque individu parmi nous, de délaisser certains péchés auxquels nous nous trouvons addicts. Donc, c'est un homme qui est venu voir l'imam Ibn al-Qayyim et qui lui a fait part de sa maladie, c'est-à-dire du péché dans lequel il se trouvait, et qui lui a fait part de son grand désarroi vis-à-vis de ce péché-là, qu'à chaque fois qu'il essaye de le délaisser, il y retombe. Alors, il a demandé à l'imam Ibn al-Qayyim de le trouver, de lui donner un conseil, de lui donner une méthode pour pouvoir délaisser ce péché-là. Et voilà que l'imam Ibn al-Qayyim, en guise de réponse favorable à sa demande, en écrit un livre. C'est-à-dire, au lieu de lui donner un conseil en quelques minutes, il lui a fait un livre. Il lui a fait un livre qui restera dans l'histoire. Après les siècles et des siècles, on ne cesse de trouver ce livre-là dans chaque coin de la terre. Et on ne cesse de trouver que les savants étudient ce livre, l'enseignent et l'enjoignent, enjoignent les croyants à le lire et à en tirer profit. C'est un très très bel ouvrage, on le répète, et en vérité, chaque musulman devrait avoir dans sa bibliothèque ce genre d'écrit, ce genre de livre, tellement il est enrichissant pour l'âme, enrichissant pour le cœur, enrichissant pour la communauté islamique. Donc, on est toujours dans les passages où l'imam Ibn al-Qayyim évoque certaines traces que provoquent les péchés. On a vu que plus la personne est dans se trouve dans les péchés, plus Allah subhanahu wa ta'ala affaiblit sa jalousie. Et on avait vu dans les derniers cours que la jalousie, c'est-à-dire être jaloux pour Allah Azzawajal, c'est une très très bonne chose. C'est un caractère noble. Le fait de voir des turpitudes dans la rue, ici et là, et d'en ressentir une chaleur intérieure. Qui n'est autre que la jalousie pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire ce dégoût, cette aversion de la désobéissance de certains, que l'on constate de certains, la désobéissance d'Allah, ce dégoût et cette aversion est un noble caractère que se doit de préserver le croyant. C'est ce qu'on appelle la jalousie religieuse, al-ghayra. Al-ghayratu lillah, yani la jalousie pour Allah Azzawajal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith, Allah lui-même est jaloux. Hein? Inna Allah, al-hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Ata'jabuna min ghayrati sa'ad. La ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni. لا أحد أغير من الله وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن تزني عبده أو تزني أمته النبي صلى الله عليه وسلم يقول dans ces hadiths là que je viens de vous citer qu'Allah est plus jaloux que le prophète est plus jaloux que Saad c'est-à-dire dans le hadith où il est évoqué quel est le jugement ou comment doit-on faire lorsque on découvre l'un des deux conjoints dans une position délicate, c'est-à-dire dans une position d'adultère. Si le mari découvre sa femme avec un autre homme, comment doit-il agir? Le prophète, lorsqu'il explique cela à des compagnons, un d'entre eux répond que pour lui, s'il trouve son épouse avec un autre homme, il frappera les deux avec le côté tranchant du sabre, sans même attendre la moindre seconde. Le prophète, quand le compagnon lui a dit ça, il s'est mis à rire. Et il a regardé ses compagnons, il a dit, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Saad ibn Mu'adh, Saad qui faisait partie des chefs de tribus, de la chef, les chefs de une des tribus des Ansar. Donc le prophète sallam, il a regardé ses compagnons, il leur a dit, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Et ensuite il a dit, par Allah, je suis plus jaloux que lui encore. Par Allah, je suis plus jaloux que lui, et Allah est plus jaloux que moi. Et Allah est plus jaloux que moi. Et dans un autre hadith, le prophète والسلام, dit qu'Allah est plus jaloux encore de constater de son serviteur qu'il commet la fornication ou de sa servante qu'elle commet la fornication. Donc, c'est une caractéristique, le fait d'être jaloux, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques divines. Allah est jaloux. Et c'est aussi une caractéristique honorable pour les croyants. C'est-à-dire, chaque croyant, il doit, lorsqu'il sort, lorsqu'il est face à des péchés en tout genre, il doit avoir ce dégoût, cette aversion au fond de lui qui n'est autre que la révélation de cette jalousie religieuse. Donc, on était dans ce passage-là, dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim évoque que lorsque on commet des péchés, eh bien, c'est cette jalousie-là qui disparaît. De telle sorte que, ça y est, pour nous, voir des homosexuels, par exemple, ça ne fait plus rien. Ça ne. Limite, yani, c'est devenu quelque chose de adi. Voir des gens qui forniquent en pleine rue, c'est pour nous, c'est adi, ça ne blesse rien. Mais on n'a aucun ressenti, on n'a aucune aversion. Voir des gens qui vendent de la drogue ici et là, qui consomment de la drogue ici et là, qui boivent de l'alcool ici et là, qui font. Yani, toutes les désobéissances ne nous font plus aucun tort, plus aucun. Ne provoquent en nous plus aucun ressenti. Ça, c'est un très mauvais signe. Et c'est un signe que les péchés que nous commettons font disparaître cette jalousie au fur et à mesure. Et c'est pourquoi vous regardez les savants, en général, ils font preuve d'une très très grande jalousie. L'imam Ahmed, par exemple, il ne pouvait pas regarder le visage d'une personne qui a commis l'adultère ou autre. Il y a tellement min shiddatil ghayra. Hein? D'ailleurs, je ne sais plus si c'est l'imam Ahmed ou un autre pied prédécesseur. À la kulli hal, donc on en était là dans ce dars. Donc on poursuit. Qala wal maqsoudu annahu kullama ishtaddat mulabasatuh lidhanb aw lidhunub akhrajat min qalbihi alghayrata ala nafsihi wa ahlihi wa umum an-nas wa qad tad'afu fi alqalbi jiddan hatta لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. الله أكبر الله أكبر. Donc là il dit, ainsi plus on côtoie les péchés, plus ils extraient, c'est-à-dire les péchés extraient du cœur la jalousie qu'on éprouve envers soi-même, sa famille et l'ensemble des gens. Cela peut se développer dans le cœur au point de ne plus répugner ce qui est horrible, ni pour soi, ni pour autrui. Et lorsqu'on en arrive là, on a emprunté la porte de la perdition. Subhanallah. Subhanallah. Vous voyez, même la jalousie qu'on doit avoir envers nos épouses, envers nos enfants, envers nos filles, envers nos mères, tout ça, c'est des choses qui, avec les péchés, disparaissent totalement. Et c'est pour ça qu'on voit que les mécréants n'ont pas de... n'ont nulle gêne, nulle pudeur, nulle jalousie envers leur propre personne, mais même envers les personnes de leur entourage. Ils ne se soucient guère de les voir commettre des turpitudes en tout genre. Wallah al-musta'an. Qala. Ensuite il dit: Wa kathirun min ha'ula'i la yaqtasiru ala adami al-istiqbah bal yuhassinu al-fawahish wal-dhulma li ghayrihi wa yuzayyinuhu lah wa yad'uuhu ilayh wa yahuthuhu alayh wa yas'a lahu fi tahsinihi wa li hadha kana ad-dayyuth أخبث الخلق أو أخبث خلق الله سبحانه وتعالى والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له سبحان الله ما أجمل من هذه الكلمات للشيخ للإمام ابن القيم franchement l'imam ibn al-qayyim là il dit des paroles qui sont très très lourdes de sens très 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 fortes il dit Beaucoup d'entre eux ne se contentent pas de ne pas éprouver de la répugnance. C'est-à-dire, bon nombre de ceux qui commettent des péchés jour et nuit, ils ne se contentent plus de ne pas éprouver de la répugnance pour ces péchés dans lesquels ils sont empêtrés ou dans lesquels ils constatent leurs proches. Mais bien plus, ils vont même, Yannick comme il dit là, mais embellissent les turpitudes et l'injustice aux yeux d'autrui. C'est-à-dire, non seulement ils ne ressentent aucune répugnance, mais maintenant ils veulent même aller jusqu'à embellir les turpitudes et l'injustice aux yeux d'autrui. Ils y appellent, y encouragent et tentent d'y parvenir. C'est pour cette raison que celui qui n'éprouve aucune jalousie, un deyous, yani le deyous, Deyous en arabe, c'est celui qui n'éprouve aucune jalousie, c'est-à-dire surtout avec son épouse. C'est-à-dire il peut l'avoir copulé avec d'autres hommes sans que ça ne suscite en lui la moindre répugnance, la moindre réaction. Ça, c'est ce qu'on appelle un deyous en yani bil arabiya. Et donc c'est cette personne-là. Le prophète a déjà annoncé qu'une telle personne, le paradis lui sera interdit. Le paradis lui sera interdit. Donc il dit, l'imam al-Qayyim, celui qui n'éprouve aucune jalousie, le Dayyus, compte parmi les plus ignobles des créatures d'Allah. Et que le paradis lui est interdit. De même pour celui qui permet l'injustice et la transgression à autrui. Et embellit cela. نعم يومبلي سر قال فانظر ما الذي حملت عليه ما فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة سبحان الله. Ensuite il dit, cela te montre, yani, vois ce qu'entraîne le peu de jalousie. Médite sur ce qui vient d'être dit, médite sur ce qui vient d'être lu. Et vois ce qu'entraîne le peu de jalousie. Cela te montre que le fondement de la religion est la jalousie. Cela te montre que le fondement de la jalousie, le fondement de la religion est la jalousie. Ça veut dire que chaque musulman, en vérité, il doit avoir au fond de lui de la répulsion pour tout ce qui concerne la désobéissance d'Allah Azzawajal. Tout acte qui est blâmable chez Allah Azzawajal doit être blâmable dans nos cœurs, doit être détesté et fortement désapprouvé dans notre cœur. Et cette aversion n'est autre que la jalousie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela te montre que le fondement de la religion est la jalousie. Et celui qui n'a pas de jalousie n'a pas de religion. Ah, ça c'est une parole très forte. Celui qui n'a pas de jalousie n'a pas de religion. Ceci car la jalousie protège le cœur et protège pour lui les membres. Ainsi, elle repousse le mal, c'est-à-dire la jalousie repousse le mal et les turpitudes. L'absence de jalousie fait mourir le cœur. Et ainsi, les membres meurent et ils ne disposent plus d'aucune défense. Subhanallah. Voilà. ومثل الغيرة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة وجد الداء والمحل قابلا وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك ومثلها مثل سياسي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده فإذا كسرت طمع فيه عدوه سبحان الله قال ensuite il termine ce passage là en disant: La jalousie dans le cœur est semblable à la force qui repousse et s'oppose à la maladie. La jalousie dans le cœur est semblable à la force qui repousse et s'oppose à la maladie. Si la force disparaît, la maladie trouve un lieu approprié sans aucune défense. Et ainsi, elle s'installe et c'est la perdition. Il en est de même pour les cornes du buffle. Grâce auquel il se défend ainsi que ses petits. Si elles sont cassées, son ennemi le convoite. Donc, on comprend de tout ce passage qui vient d'être lu l'importance d'avoir cette jalousie en nous-mêmes. Et c'est très, très intéressant de voir pourquoi l'imam Ibn Qayyim il évoque ce passage-là. Parce que là, il est en train de donner des traitements pour cette personne qui l'a questionné. Mais en vérité, c'est pour tout le monde, c'est pour nous. On est tous des pécheurs. On est tous amenés à un moment donné à tomber dans des péchés qui nous sont difficiles de délaisser. Mais lorsqu'on passe sur ce genre de passage et qu'on se rappelle qu'on doit avoir de l'aversion pour la désobéissance d'Allah Azzawajal, qu'on doit avoir de la jalousie pour Allah Azzawajal envers nous-mêmes, tout d'abord, envers nos proches. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'envers nous-mêmes, surtout lorsqu'on se retrouve dans une situation où nous sommes totalement isolés des gens, isolés des regards des gens, on essaye de se rappeler que cette aversion-là, qu'on doit avoir, qui fait partie de la religion, qui est même un pilier et un défenseur de notre religion n'est autre que la jalousie et qu'elle doit bel et bien être présente et que cette jalousie nous empêchera nous-mêmes de commettre des turpitudes et de surcroît nous permettra d'empêcher ou de moins de ne jamais approuver les turpitudes que l'on verra ou que l'on constatera autour de nous-mêmes. Donc on a fini avec ce passage-là. Il est clair. Taïeb. On va prendre un petit peu du chapitre qui suit. قال فصل المعاصي تذهب الحياء، وهذا مقارب لما سبق. Là, c'est un chapitre qui ressemble un peu à celui qui vient de passer, mais qui est un temps soit peu différent. Là, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que les péchés dissipent toute forme de pudeur. Donc, le chapitre précédent, c'était « ça dissipe la jalousie » et là, « ça dissipe la pudeur ». وَمِنْ قَالَ وَمِنْ عُقُوبَاتِ نعم قال ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمع. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله. الحياء خير كله. Donc 28e chapitre. Les péchés font disparaître la pudeur. Les péchés font disparaître la pudeur. نعم. Les péchés font disparaître la pudeur qui est pourtant l'essence de la vie du cœur et la source de tout bien. Sa disparition marque la disparition de tout bien. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit « La pudeur n'est que bien. La pudeur n'est que bien. » نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il dit dans un autre hadith, parmi les préceptes que les gens ont retenus des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح إذ الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها وهذا تفسير أبي عبيد. Il existe deux interprétations au sujet de ce dernier hadith. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les préceptes que les gens ont retenu des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Il y a deux interprétations. La première interprétation est qu'il s'agit d'un avertissement et d'une menace. Le sens en est alors que celui qui n'éprouve aucune pudeur commet ce qu'il veut comme ignominie. Car ce qui l'empêche d'y tomber est la pudeur. Donc s'il n'y a pas de pudeur qui puisse dissuader de commettre des ignominies, on y tombe. Et c'est là l'interprétation de Abu Ubayd. Au fi'lan, et bien sûr que la pudeur retient énormément de gens. Là, qu'est-ce qui retient les gens de sortir nus dans la rue? Qu'est-ce qui retient les gens de copuler aux yeux de tout le monde, aux yeux de leurs proches, aux yeux de leurs enfants, aux yeux de tout le monde? Qu'est-ce qui retient les gens de voler, de boire aux yeux de tout le monde, au vu et au su de tout le monde? La pudeur, en grande majorité, la pudeur. Ça ne veut pas dire que la crainte d'Allah n'y est pas, mais ça veut dire que la pudeur est un ressenti très très fort qui amène et qui pousse l'individu aux nobles valeurs, ou du moins à préserver ses valeurs. قال والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله. طيب أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله وإنما الذي ينبغي تركه وهو ما يستحي منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. La seconde interprétation est que si l'on n'est pas gêné d'accomplir cet acte devant Allah, on l'exécute. Et ce qu'il convient de délaisser est uniquement ce qu'on est gêné d'accomplir devant Allah. Et c'est là l'interprétation de l'imam Ahmed selon ce que rapporte Ibn Hani. Ainsi, selon la première interprétation, c'est une menace, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, selon une traduction approximative, « Faites ce que vous voulez ». Et selon la deuxième interprétation, c'est une permission et une autorisation. C'est une permission et une autorisation. Donc il y a un avis qui dit que cette parole prophétique est une mise en garde, et l'autre qui dit que en fait, si cet acte-là, il fait partie des actes dont vous n'avez aucune honte et aucune gêne de commettre devant Allah Azza wa Jal, alors vous pouvez le faire. Les actes qui vous sont interdits de d'accomplir sont ceux qui vous mettent dans la gêne et dans la honte devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va terminer juste ce passage-là car il est très intéressant. Taïe. قال نعم فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين وجب اعتبار الآخر، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما إن سلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبحه ما عن قبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطعم. سبحان الله. Donc là il dit l'imam al-Qayyim, si on objecte, n'est-il pas possible de l'interpréter des deux manières, c'est-à-dire ce hadith, est-ce qu'on peut l'interpréter des deux manières précédemment citées? L'imam al-Qayyim, il répond en disant, on peut répondre non, pas même selon l'avis de celui qui considère l'ensemble des significations en raison de l'opposition entre la permission et la menace. Là, dans un avis, on a une permission, dans l'autre, on a une menace. Comment on pourrait les rassembler, ces deux avis? Ils sont totalement opposés, en fait. On ne peut pas les rassembler. Mais le fait de considérer un sens implique de considérer l'autre. Cependant, c'est-à-dire le fait de considérer un sens, ça implique le fait de considérer l'autre, comme il va l'expliquer très brièvement. Il dit, voilà, ce que nous voulons montrer est que les péchés affaiblissent la pudeur de l'homme jusqu'à en être totalement dépourvu, au point de n'être pas touché par le fait que les gens connaissent sa mauvaise condition. Plus encore, nombre d'entre eux informent de leur situation et de l'ignominie qu'ils commettent. C'est-à-dire, subhanallah, et ça c'est la situation de bon nombre de gens qui ne connaissent pas et qui sont empêtrés dans les péchés jour et nuit, parmi les musulmans. Alors que dire des mécréants? Hadith wala haraj. Donc il dit, la pudeur de l'homme jusqu'à en être totalement dépourvu, au point de n'être pas touché par le fait que les gens connaissent sa mauvaise condition. Plus encore, nombre d'entre eux informent de leur situation et de l'ignominie qu'ils commettent. Ce qui l'amène à cela est l'absence de pudeur, et si l'homme parvient à cette situation, on ne peut plus espérer son amendement. C'est-à-dire, on ne peut plus espérer son salut. Lorsque un homme arrive à un tel degré, c'est-à-dire il ne se soucie guère que les gens connaissent ses péchés, connaissent les turpitudes dans lesquelles il est empêtré jour et nuit. Ça, c'est une situation dans laquelle l'individu, lorsqu'il atteint ce genre de stade, en général, on ne peut espérer derrière un salut quelconque. Wallahu al-musta'an. Donc c'est encore un très beau rappel pour que on s'efforce d'éviter les péchés et qu'on s'efforce jour après jour, de se repentir à Allah azzawajal, parce que qu'on le veuille ou non, les péchés, on les accumule. Les péchés, on les accumule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قال الله عز وجل يا ابن آدم يعني يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh vous les enfants d'Adam, ou oh vous mes serviteurs, ça c'est un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh vous mes serviteurs, vous faites des fautes, vous commettez des turpitudes, des péchés de jour comme de nuit. Cependant, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Inch'Allah, on s'arrête là pour ce soir. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.